gouvernement n'a pas apporté de réponse à notre agonie. Donc notre colère est inarrêtable maintenant.
Moi, un rendez-vous.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Et nous ne lâcherons rien ce soir. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. C'est votre nouveau rendez-vous, le magazine de la bonne soirée à double effet et à deux vitesses. Podcastable dès 18h avant la diffusion antenne, comme tout le monde, de 22h à minuit, ça c'est dit. Une émission en deux temps. Première partie, l'actualité et la musique live. Deuxième heure, les archives extraordinaires de France Inter. L'actu ce soir, c'est Chili, Liban, Bolivie, Hong Kong, France, peuple, tous debout, tous en marche, entre guillemets. Du Chili au Liban, en passant par Hong Kong, la Bolivie, la France, on assiste à une succession de mouvements populaires, défilés, manifestations, désobéissance civique, grèves, avec un socle commun, dénonciation des inégalités économiques et sociales, perte de contrôle démocratique. Alors, allons-nous vers une convergence des luttes et crise sociale au niveau mondial, Christophe Bourseiller?
Bah écoutez, si vous me posez la question à moi, je ne sais pas encore. Je pense que nos invités vont nous permettre d'y répondre. Vous voulez des titres peut-être? Allez, on y va. Chili, Liban, Bolivie, Hong Kong, puis il y a beaucoup d'autres pays en réalité. Ça croit. Inde, Arabie Saoudite, enfin bref. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous? Bon, c'était un peu facile. Crise sociale, une vague internationale.
C'est le côté géopolitique. Ça, c'était pas mal. Ça, c'était le vôtre.
Ouais. Plus ridicule, Chili, Liban, crack boumu, c'est un peu
ridicule.
C'était nul. Et le crack social, on y va. L'interrogation.
Ça, je sais que vous aimez bien parce qu'il y a le point d'interrogation à la fin. Pas de crise ou presque, en tout cas pour la musique en live, tous les soirs dans le NRV, Marion Guilbault, depuis la rentrée. Et ce soir?
Ce soir, ça va être un crash sonique avec le duo Bandit Bandit. Duo à la ville comme à la scène, ils sont en live à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole, ce sera le NRV La Suite, France Inter plus de Toulouse-Lautrec cette semaine, à l'occasion de l'exposition au Grand Palais. Alors, Moulin Rouge, Montmartre, danseuse, bordel et avant-garde artistique au programme. Allez, le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous présente nos invités. Daniel Simonet, vous êtes porte-parole de la France Insoumise, conseillère municipale de Paris. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
À vos côtés, juste à côté de moi d'ailleurs, il est Stéphane Rosès, politologue et président de CAP. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
François Boulot, vous êtes avocat, porte-parole des Gilets jaunes à Rouen et auteur de La Ligne jaune aux éditions indigènes. Bonsoir.
Bonsoir.
Et enfin, Françoise Closet, journaliste économique que tout le monde connaît. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
C'est parti. Christophe, allez hop, éditorial.
Vous savez, Laurent, quand je vois les reportages à la télé sur le Liban, le Chili, la Bolivie et j'en passe, je me dis, tiens, on se croirait en France. Bah oui, je vous rappelle, Laurent, que notre beau pays est champion du monde des jours de grève, selon l'OCDE. Alors oui, ça boue, ça crie aux quatre coins du globe, mais assistons-nous à l'ébauche d'une crise sociale internationale, d'un mouvement social mondial. Avouez que ça aurait de la gueule, hein. Ce serait certes envisageable. Avec le web et l'instantanéité des messageries, une révolte sociale pourrait théoriquement se propager aussi vite qu'une crise financière. Alors, allons-nous vivre, Laurent, un crack social mondial, l'idée du crack transposée à la question sociale? Pour l'instant, les révoltes sont très localisées, en réalité. Quoi de commun entre le Liban et Hong Kong? Justement, c'est ça la question, Laurent. Je sais pas. Vous allez la poser. François de Closet, les révoltes sociales actuelles du Chili au Liban en passant par la Bolivie ont-elles, selon vous, quelque chose de similaire?
Oui, et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'elles sont tellement différentes, mais quand on regarde bien, on retrouve quatre éléments qui me semblent un peu présents un peu partout. Premièrement, au départ, ce n'est pas un événement considérable qui déclenche ça, c'est pas une défaite militaire, c'est une augmentation de tarifs, etc.
Donc
un
métro, événement par exemple, mineur, Chili, la hausse du prix de l'oignon.
Oui. Une étincelle, ça explose. Deuxièmement, le mouvement est complètement inorganisé. Il n'y a pas de parti, souvent. Il n'y a pas de leader. C'est la foule qui dit, nous sommes le peuple. Troisièmement, le mouvement aussitôt est anti-système, dégagiste et contre les élites. Et quatrièmement, ce mouvement, manifestement, traduit une aspiration à la démocratie directe et un refus des systèmes représentatifs. Voilà, on pourrait en trouver d'autres. Pour moi, c'est ces quatre éléments qu'on retrouve un peu partout et qui montrent que oui, il y a un phénomène commun, en dépit de l'incroyable diversité que vous avez souligné. Et tout est différent et pourtant,
tout est
on
pareil.
Grattant bien, on retrouve les mêmes causes.
Les mêmes ingrédients.
Daniel Simonet, vous êtes d'accord avec cette analyse?
Oui, je pense que on est face à une situation où c'est le peuple, l'ère du peuple En fait, dans tous ces pays, ce qui est très marquant, c'est que c'est pas une des mobilisations sociales, comme vous le dites, d'une catégorie sociale. C'est plutôt le peuple qui prend conscience de lui-même dans une mise en mouvement sur les questions sociales et très vite politiques. On remarque d'ailleurs à chaque fois les mêmes étapes. Une phase instituante où justement le peuple acteur prend conscience de lui-même. Alors il s'identifie. Donc il y a une goutte d'eau de trop qui est l'étincelle qui fait que ça explose. Donc ça peut être le ticket de métro, ça peut
par
être
exemple les appels de WhatsApp qui sont tarifés
exactement
au Liban,
pour le
mais
Liban.
Au-delà de ça,
alors
après,
ça peut être en Algérie, voilà, ouais, le cinquième mandat de Bouteflika, voilà,
ou il peut y avoir autre chose.
Si, justement, parce que
d'un côté,
vous avez
y a une dimension sociale et de l'autre une dimension
vous
politique.
Vous avez l'irruption du peuple et justement la dimension politique, elle arrive très vite. Regardez, qu'il s'agisse du Chili, on est passé par la phase instituante, ensuite par la phase destituante, c'est-à-dire dégageons ce personnel politique corrompu qui ne nous protège pas ou qui ne nous protège plus ou qui ne nous a jamais protégés. C'est pareil au Liban, c'est pareil en Algérie. Et ensuite, on passe aussi à la phase constituante, c'est-à-dire que l'Algérie, le peuple algérien décide, exige une nouvelle constitution et ne veut pas du calendrier électoral. Le Chili, ils veulent une constitution et c'est les organisations syndicales ouvrières, hein, qui y compris appellent à la grève générale pour la constituante. Au Liban, on est aussi devant une demande de liquidation de la forme politico-religieuse du pouvoir et donc une revendication constituante qui se fait. Vous avez ces aspirations aussi en Irak. Donc, cette phase constituante, on voit bien que ce n'est pas qu'une mobilisation sociale. C'est le peuple qui veut déterminer son propre destin et qui rejette finalement la logique oligarchique du pouvoir en place, qui rejette le néolibéralisme, et on voit aussi les classes populaires et moyennes qui sont ensemble dans
mais
ce
alors,
même mouvement.
Est-ce que c'est pas un petit peu compliqué, Stéphane Rosès, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit mélange qui se fait, même dans des classifications que nous avons données au départ, entre des mouvements vraiment économiques, sociaux, avec des revendications sociales, et puis des mouvements qui sont plus politiques. Il y a un petit mélange entre
comme
les deux.
Comme à Hong Kong, par exemple.
Comme
à Hong Kong,
la dimension politique, où c'est plus proche, une révolte politique ou une révolte sociale.
Et plus près de chez nous, les Gilets jaunes.
Bien sûr, on en parlera dans la deuxième heure.
Voilà,
deuxième
partie. D'accord. Mais effectivement, les deux sont liés. Pourquoi ? Parce que, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit, en termes d'interprétation, je crois qu'il y a trois phénomènes qui se cumulent. Le premier, ça a été dit, c'est que les peuples se sentent dépossédés de la maîtrise de leur destin. Ça, c'est l'effet du néolibéralisme, c'est-à-dire que les modalités de la globalisation économique, financière et numérique se font en dehors des canaux habituels qui étaient ceux du libéralisme, c'est-à-dire celle de la maîtrise et de la souveraineté des peuples. Ça, c'est le premier phénomène. Il y a un second phénomène qui est lié, mais qui est distinct, c'est l'ultralibéralisme, que je distingue très nettement du néolibéralisme, sinon on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui. L'ultralibéralisme, c'est à l'intérieur d'un même pays, des rapports capital-travail qui sont tellement en faveur du capital qu'ils attaquent au fond les classes moyennes.
Ce qui se passe au Chili, par
voilà.
exemple.
Voilà. Et donc, du coup, ça fait un effet, je dirais, d'affaissement par le bas. Ça fait un effet d'affaissement par le bas. Et notamment, la crise de 2008 a été le moment déclenchant parce que pour sauver le système bancaire, les États ont prêté et les États se récupèrent contre les classes moyennes. Et donc, selon moi, le néolibéralisme est le cadre qui permet le déploiement de l'intralibéralisme. Mais je reviendrai tout à l'heure pourquoi, d'un point de vue conceptuel, je distingue les deux. Et le troisième élément, ça a été dit, c'est que du coup, les formes de mobilisation, après l'explication, je dirais, culturelle, l'explication économique et sociale, il y a le fait que nous sommes face à des multitudes interclassistes qui peuvent se retrouver grâce à l'Internet dans des modalités de mobilisation qui permettent de faire l'économie des verticalités traditionnelles, syndicats, mouvements sociaux et tout.
Bon, alors, qui du coup sont un
ce
peu
qui
sur
fait,
la touche.
Voilà, et ce qui fait que selon moi, il ne peut pas y avoir de conjonction de ces phénomènes, c'est que dans toutes ces dimensions, ce qui fait un peuple d'abord, c'est la modalité d'assemblement. Et donc derrière, c'est la question de la souveraineté. C'est la question d'une préemption de la question nationale sur la question sociale, d'où le fait que les gens de gauche sont étonnés qu'ils ne profitent pas plus politiquement de ce mécanisme, parce qu'au fond, quand on est privé de l'essentiel économique et social, le premier sujet, c'est qu'est-ce qui fait peuple ? qu'est-ce qui me relie aux autres ? Ce qui fait que souvent, une fois passé le moment d'irruption, il y a un retour de balancier qui est un retour conservateur.
François Boulot, vous le voyez, ce retour de balancier, ce retour du refoulé conservateur ?
Je suis vraiment d'accord avec les analyses que
tout le monde est d'accord. C'est formidable.
Je voudrais prendre un chouïa de recul. Effectivement, en fait, ce qui relie tous ces mouvements, c'est la cause. Et la cause, c'est le néolibéralisme, qu'il faut effectivement distinguer du libéralisme.
C'est vraiment l'échec d'un modèle économique et social, en fait.
Mais évidemment, qui vient, à mon avis, au moins en partie, loin de moi de défendre le régime stalinien, mais de la chute du bloc soviétique, qui a permis au capitalisme d'être hégémonique et, en fait, de libérer toutes les dérives possibles. On a aujourd'hui un capitalisme financiarisé, un système économique qui est basé effectivement au service d'une toute petite partie de la population qui concentre de plus en plus de richesses dans un nombre de plus en plus restreint de personnes, ce qui conduit effectivement au déclassement non seulement des classes populaires, mais surtout de toute la classe moyenne dans les divers pays. Et évidemment, vous avez ensuite donc une situation qui est explosive. J'ai entendu parler d'étincelles. Effectivement, en fait, les peuples, les pays aujourd'hui sont assis sur le même baril de poudre. C'est celui du néolibéralisme. Et donc, il n'est pas étonnant de voir que dans tel pays, c'est l'augmentation du ticket de métro. Dans tel autre, c'est l'augmentation du carburant, comme ce qui
comme le ce qui prix de l'oignon en Inde. Le prix du narguilé en Arabie Saoudite.
Voilà, à chaque fois, c'est... C'est la goutte de trop qui fait déborder un vase qui était déjà plein. Et à chaque fois, on retrouve la même chose, c'est-à-dire que la question qu'elle parte d'un aspect social, ce qui est souvent le cas, ou politique, on se rejoint, en fait, au final. Et dans l'expérience que j'ai eue chez les Gilets jaunes, au bout de 15 jours, en fait, on est passé de la question strictement de la répartition des richesses, de l'injustice fiscale, au référendum d'initiative citoyenne, et donc à la dépossession du peuple de son pouvoir de décider démocratiquement.
François de Closet.
Je voudrais pas qu'on prenne c'est le néolibéralisme, libéralisme, et puis c'est tout. C'est plus compliqué que ça. Certes, il y a l'ultralibéralisme qui pousse, attention, à l'individualisme, pas seulement aux inégalités, à l'individualisme qui fait dégénérer les classes moyennes et s'enrichir les hyper-riches. Mais il y a aussi le dépérissement des valeurs communes, de ce qui fait qu'on reste ensemble. Parce que même dans un pays régime autoritaire, il y a des valeurs communes qui font que finalement, il n'y a pas que les baïonnettes qui tiennent la cohésion sociale. Et on a l'impression que ces valeurs communes, elles sont en train de fiche le camp, que la société est déverrouillée et que si on éternue, l'échafaudage peut se trouver par terre. Et la dernière chose, mais ce sont les réseaux sociaux qui abolissent les hiérarchies, qui délégitimisent le système social et qui pratiquent une remise en cause permanente. Alors, quand vous additionnez tout ça, vous apercevez que démocratie autoritaire, les sociétés ne sont plus verrouillées et qu'il suffit de très peu de choses pour que ça pète.
Alors tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas de crise mondiale véritablement, et pourtant il y a des indices qui... Non, il y a une crise mondiale, mais il n'y a pas de convergence, on va dire, des luttes sociales entre les pays. Et pourtant, en effet, on voit apparaître dans certains pays le masque du joker qui revient comme un indice.
Bien sûr.
Daniel Simonet.
On voit bien que dans les formes d'action...
On peut espérer ou attendre une sorte de communauté comme ça, mondiale,
oui,
autour de la crise.
Vous savez, dans toutes ces mobilisations, évidemment, chacune...
Parce que les pays se regardent les uns les autres aussi.
Exactement, les pays se regardent les uns les autres. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'ailleurs, dans chaque pays, on voit fleurir les drapeaux du pays. Et c'est pas du nationalisme ou du patriotisme
oui, c'est
exagéré.
Avant, c'était le drapeau rouge, le symbole.
C'est au contraire, je pense que le drapeau du pays est brandi pour bien marquer la légitimité du peuple dans sa mise en mouvement pour exiger que sa souveraineté soit respectée parce que finalement les décisions totalement illégitimes sont prises par une poignée, une caste qui ne le représente pas et qui va à l'encontre de l'intérêt général. Et comme le peuple est légitime pour défendre l'intérêt général, il brandit le drapeau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils se regardent les uns des autres. Et on a pu voir le gilet jaune porté, que ce soit au Liban, que ce soit en Irak, que ce soit en Algérie.
Les contestataires font référence aux contestataires des autres pays.
Ouais. Parce que cette légitimité international montre aussi le caractère universel du peuple qui revendique l'exercice de sa souveraineté. Avec c'est pour ça que c'est pas un mouvement social, c'est que c'est forcément le peuple en tant qu'acteur social et politique.
Mais la faiblesse, est-ce que c'est pas finalement le fait qu'il y a que des micro-revendications, c'est-à-dire au Chili, ça va être le ticket de métro, ailleurs, ça va être quelque chose de complètement différent.
Parce que la micro-revendication ce que vous appelez la micro-revendication, c'est en fait le point de départ. Prenez la question des gilets jaunes. Le point de départ, c'est on peut plus payer l'essence. Or, on est obligé d'utiliser la voiture pour aller bosser. Mais très vite, c'était pas ça la question centrale. La question centrale, c'était les injustices sociales, l'inégalité fiscale. On fait des cadeaux aux plus riches et nous, on se retrouve à ne pas pouvoir boucler la fin du mois.
Et c'est la même chose au Liban.
Et on veut pouvoir déceler ces politiques à travers le RIC.
Au Liban, on commence avec le WhatsApp et on finit sur dénoncer
exactement.
La corruption du régime
et
en place.
Vous prenez, par exemple, parce que tout à l'heure, vous disiez, mais l'Algérie, c'est totalement différent. Écoutez, avant qu'on en arrive à l'étincelle qui était le cinquième mandat de Bouteflika en Algérie, on a des mobilisations des chômeurs très fortes, on a également
des mobilisations
exactement.
Pourquoi on c'est a maintenant eu... que ça
mais
explose.
Vous savez, ça couvre. Prenez par exemple le Chili, ça couvait. Pourquoi est-ce que c'est maintenant que ça explose? Il y a aussi une nouvelle génération. Que ce soit la génération en Algérie, que ce soit la génération au Chili par exemple, c'est les jeunes qui ont un rôle très important et qui disent, voilà, nos parents, nos arrière-grands-parents, nos parents, nos grands-parents ont eu très peur du pouvoir autoritaire et qui menait ces politiques illégitimes. Nous, on décide dorénavant de ne plus avoir peur.
Manifestement, la situation est brûlante. Eh bien, Film Noir l'a bien compris dans le NRV. Un titre signé Film Noir qui sera en live dans le NRV le jeudi 14 novembre prochain. La programmation est très chaude ce soir pour Jean-Baptiste Audibert.
Qu'est-ce qu'on a à perdre? On n'a plus rien à perdre.
France Inter.
Les gilets jaunes sont très très déterminés et ils n'arrêteront pas.
C'est tout l'hôpital qui est en train de craquer.
Les cheminots, ils sont pressurisés et ils sont prêts à exploser.
À un moment donné, il faut peut-être se faire remarquer pour pouvoir avancer, sinon on n'est pas écouté.
Nouveau rendez-vous.
Les grognes s'accumulent, les colères s'additionnent, celles des profs, des pompiers, des agriculteurs, celles du monde hospitalier et des urgences. La crise dure.
Tout le monde pense à la grève du 5 décembre.
Je ferai tout pour qu'il n'y ait pas ces blocages, mais je n'aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance.
Laurent Goumard,
C'est dit. Alors, on vient d'évoquer en première partie une convergence des crises sociales et politiques dans le monde. Chili, Inde, Algérie, Liban, la démonstration de l'échec d'un modèle économique et social. Gros plan maintenant sur la France. On en parle avec nos invités. Daniel Simonet, porte-parole de la France Insoumise. Stéphane Rosès, politologue. François de Closet, journaliste économique. Et François Boulot, avocat et porte-parole des Gilets jaunes à Rouen. C'est la première question est pour vous d'ailleurs, François Boulot, parce qu'il y a eu l'Assemblée des Assemblées à Montpellier. Qu'est-ce qu'il en est sorti?
Écoutez, il y a eu un vote au moins sur une question cruciale qui est la grève du 5 décembre et la volonté effectivement des Gilets jaunes de se joindre à ce mouvement-là. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la colère aujourd'hui est bien plus forte qu'elle n'était encore il y a un an. Pas un seul Gilet jaune n'est rentré chez lui et ne sort plus de chez lui parce qu'il aurait été convaincu par les mesures adoptées par le président de la République. En réalité, tout le monde a bien vu qu'il n'a pas changé de cap et que
il y a quand même des mesures qui ont été mises en place.
Oui, bien sûr, mais si vous voulez, les 17 milliards dont on parle sans arrêt, dans la mesure où Emmanuel Macron se refuse à remettre en cause des dispositifs fiscaux qu'il a fait adopter au bénéfice des ultra-riches, qui va payer? C'est toujours les mêmes, c'est la classe moyenne, ou tous les Français, c'est-à-dire soit en augmentation d'impôts ici ou là pour eux, soit en coupe dans les dépenses publiques, et ça va toucher encore et toujours les services publics essentiels, c'est-à-dire la police, la santé, l'éducation, la justice, les pompiers.
Vous en êtes où maintenant les Gilets jaunes? Parce que là, tout le monde dit que le mouvement est un peu fini, il y a certes toujours des manifestants, enfin beaucoup moins qu'avant. Est-ce que vous avez envie de vous regrouper, de devenir un parti, un groupe? Quel espace voulez-vous occuper par rapport aux Insoumis, à la CGT? Vous vous situez comment maintenant?
Alors, je crois simplement pour expliquer...
Alors que le mouvement est un peu en reflux.
Bien sûr, alors sur la question du reflux, elle est évidente, personne ne peut la contester. Maintenant, il faut en comprendre les causes. Vous avez le phénomène de fatigue, évidemment, lié au fait
Acte
que les
51,
gens...
je crois, là,
voilà,
un samedi.
Là, les gens sacrifiaient, non pas par plaisir, tout leur samedi, de week-end en week-end, et ce que ça comportait en termes de sacrifice sur leur vie personnelle et familiale. Mais il y a aussi la peur, maintenant. Vous avez beaucoup de personnes dans notre pays qui, tout simplement, ont peur d'aller manifester, au risque de perdre un œil ou de perdre une main, parce que vous avez une répression policière et judiciaire qui s'est abattue sur le mouvement, qui a eu pour objectif de briser psychologiquement mais aussi physiquement les manifestants. Et je trouve que ça me semble très inquiétant. Et je le regrette, dans le pays des droits de l'homme, vous avez même François Sureau qui, vous voyez, est plutôt soutien au départ.
Faudrait pas en faire trop tout de même sur l'atteinte à la liberté.
Mais écoutez,
les défenseurs de la liberté dans les pays
je vous ai pas interrompu. La façon dont il porte atteinte aux libertés. Là,
mais je vous ai pas interrompu, François Sureau, qui est un avocat, qui est soutien d'Emmanuel Macron à l'origine, vient d'écrire un manifeste pour dire sans la liberté. Il dit que la liberté aujourd'hui est morte dans notre pays. Il raconte cette anecdote où il était à les places de la République. Il y avait une manifestation pour Steve Canisso qui est décédé à Nantes cet été. Et il explique qu'il y avait effectivement des policiers, et j'en ai vu aussi personnellement, qui ont des armes, des fusils d'assaut. Et que ça, évidemment, ça a pour objet d'intimider les gens. On ne fait pas la guerre à son peuple. Bon, donc si vous voulez, non, il y a une dérive.
Quand de l'autre côté, il y a eu aussi des dérives. Si les flics avaient des armes d'assaut, c'est peut-être que de l'autre côté, il y avait une certaine violence qui était faite.
Mais moi, je vais donner des arguments. Je ne dis pas qu'on est tombé dans le fascisme. Je dis qu'il y a une dérive autoritaire, qu'un certain nombre de digues démocratiques ont sauté. Vous avez assisté à des interpellations préventives. C'est-à-dire qu'on a arrêté des gens, les a mis en garde à vue sans aucun motif pour certains. On les mettait en garde à vue simplement parce qu'on avait trouvé un gilet jaune dans leur voiture. Vous voyez, ce qui ressort ni plus ni moins que d'une obligation légale. Vous avez eu une impunité totale, en fait, qui a été laissée par les autorités publiques aux forces de l'ordre, puisque aucune condamnation publique n'a été prononcée. Au contraire, Emmanuel Macron a dit au mois de mars, il n'y a pas de violence policière dans notre pays. Alors qu'il y a 300 enquêtes IGPN, que tout le monde a vu les images sur les réseaux sociaux de violence évidente, où il y a une disproportion dans l'usage de la force, à ce jour, pas une seule condamnation n'a été prononcée contre les forces de l'ordre. Et au contraire, Christophe Castaner a fait délivrer des médailles.
On va pas revenir sur l'état de la police, parce qu'on a fait plein de débats.
Non, mais c'est pas l'état de la police.
C'est savoir aujourd'hui où en sont les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'ils veulent, même sur le plan politique, est-ce qu'il y a une organisation possible?
Je réponds à votre question. C'était pour dire l'état des libertés et ce qui explique le reflux du mouvement. Maintenant, la colère est là. Donc, si vous voulez, les gens ont toujours envie de se mobiliser. Mais ils cherchent effectivement de nouveaux moyens. Et donc, l'un des moyens, moi, je l'avais indiqué dès le début du mouvement, c'était la grève illimitée, et il y a une fenêtre de tir qui s'ouvre avec d'autres foyers de contestation qui sont nés pendant la période, chez les pompiers, les personnels de santé, les enseignants, etc.
Et même les flics.
et même les policiers. Vous parlez de la question de la structuration dans un parti politique. Moi, je crois que c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant, parce que le mouvement est parti des ronds-points. Il est effectivement totalement décoordonné au départ. Donc, les choses s'agrègent petit à petit, notamment via l'Assemblée des Assemblées, via la plateforme de la ligne jaune que j'ai créée. Il y a 29 000 membres aujourd'hui, ce qui permet de mettre les gens en réseau. Et on va essayer de délibérer pour savoir comment se projeter désormais. Mais ce qu'on a vocation à faire, en tout cas, c'est à continuer à imposer nos sujets dans le débat public pour essayer de politiser les gens et progresser sur les sujets d'économie, de fiscalité,
etc. Il faut être sérieux. Si vraiment c'était par la force, la violence, que le gouvernement avait fait reculer le mouvement des Gilets jaunes, on dirait que finalement, il n'y a pas un grand problème. Si, il y a un grand problème. Il y a un grand problème, c'est que le mouvement des Gilets jaunes a révélé que la France ne se reconnaît plus dans ses représentants. Or, nous sommes un système représentatif. Donc, ça remettait en cause très profondément. Il fallait le prendre au sérieux. C'est pourquoi, moi, je dis, au point où on en est, on ne peut plus considérer que les élus sont les seuls représentants. Faut à côté des gens tirés au sort, partout, à tous les niveaux. Autrement, les gens ne s'en sortiront pas. Et deuxièmement, les Gilets jaunes ont présenté leurs besoins, leur mécontentement. Mais traditionnellement, dans notre société, ce mécontentement, il est pris en charge par des institutions, par des syndicats. Il se transforme en revendications qui, elles, tiennent compte de ce qui est possible et de la façon de faire. Et là, on voit qu'on peut difficilement gérer un mécontentement qui ne prend pas la forme des revendications et l'aspect de l'action revendicative. C'est ça qui désorganise tout.
Stéphane Rosette, vous êtes d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que Macron s'était comporté un peu en dictateur face aux Gilets jaunes, avait finalement réprimé d'une façon très excessive un mouvement et que c'était la raison pour laquelle aujourd'hui en France, c'est peut-être les syndicats qui vont prendre la main le 5 décembre ?
Je pense qu'effectivement, il y a eu une dérive autoritaire et l'analyse de François Sureau est intéressante dans la mesure où c'était un soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, puis du président Macron, et je crois volontiers ce qu'il me dit et ses analyses, parce que c'est quelqu'un de sérieux. Néanmoins, je ne dirais pas que le reflux des Gilets jaunes et le reflux du soutien de l'opinion est lié essentiellement à la répression et à une petite dérive autoritaire, d'autant qu'au début, à tort, le pouvoir escomptait que les violences feraient refluer le soutien de l'opinion.
Les violences des Gilets jaunes, enfin voilà, des Black Blocs.
Voilà. Or, dans un numéro de la revue Politique et Parlementaire, où il y a différentes contributions, j'analysais ce mouvement des Gilets jaunes comme une jacquerie, au sens noble du terme, comme sous l'Ancien Régime, tenant ensemble la question fiscale et la question politique. Il y avait une pancarte qui disait « Macron nourrit ton peuple ». C'est-à-dire que la France s'est constituée autour de l'État, et donc la capacité à lever impôts et à consentir à l'impôt est un élément pas essentiellement et seulement économique, c'est un élément de nature profondément politique. Et selon moi, Emmanuel Macron s'est fait élire parce que le moment actuel était un moment bonapartiste qui faisait que le sujet, c'était le peuple et le souverain, qui mettait de côté les corps intermédiaires avant même l'arrivée d'Emmanuel Macron et qu'avec son intelligence, son intuition, il a su récupérer à son profit. La pétition des Gilets jaunes a été signée avant l'été. Elle n'a marché qu'après l'été, justement, parce que selon moi, à ce moment-là, Emmanuel Macron opère un tournant silencieux dans son rapport au pays. Il avait dit « Le premier mandat que m'ont confié les Français, c'est de restaurer la souveraineté de la nation. » De sorte que le pays voyait que ces réformes étaient injustes, mais il consentait, on l'avait vu lors du conflit des cheminots, au nom de la restauration de la souveraineté nationale. Et quand Merkel lui dit qu'elle ne va plus bouger les lignes en Europe, il opère, comme Chirac en 95, un tête-à-queue silencieux, de sorte que les injustices, alors, ne sont plus du tout acceptables. S'il ne dit pas devant des millions de Français à la question « Où emmenez-vous les Français ?», les historiens le diront. Et en cela, il n'y a pas une alternative politique qui se présente. Il y a 80% des Français qui soutiennent les Gilets jaunes, et c'est une jacquerie. Et ce n'est pas lorsque Emmanuel Macron lâche les 10 milliards et retire la taxe que ça se repose, c'est quand il se remet au milieu des Français. C'est-à-dire que symboliquement, il semble se remettre sous la coupe des Français, mais le problème n'est pas résolu, car on ne sait pas si les efforts demandés aux Français visent à renforcer notre modèle ou à le diluer dans une Europe néolibérale.
Je voudrais juste compléter l'analyse de Stéphane Rosès.
Très rapidement, parce que je crois
qu'on est d'accord là-dessus. En fait, Emmanuel Macron, il avait une stratégie sur l'Union européenne, c'était faire évoluer et reprendre la construction européenne en donnant les gages à l'Allemagne de réformes structurelles qu'il allait opérer, privatisation, flexibilité, etc. Malheureusement, il a fait ces réformes. Et Merkel lui a dit non. Elle a dit non à tout.
Au budget européen. Exactement.
Non au protectionnisme européen, à rien. Donc la construction, elle est bloquée. La stratégie de Macron, c'est un échec. Et pour l'instant, eh bien, il ne change pas de stratégie. Ce qui fait qu'il se condamne à l'impuissance politique et donc à la colère grandissante des gens parce qu'en attendant, il va gérer la baisse du niveau de vie des citoyens français.
Daniel Simonet, et ensuite François.
Oui, moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas minimiser la façon dont le pouvoir a réussi à dénigrer, à briser, à diviser les gilets jaunes. Et c'est important d'analyser comment il s'y est pris, parce que on va retrouver les mêmes méthodes des autres pouvoirs en place dans les pays dont nous parlions tout à l'heure. D'ailleurs, que ce soit Hong Kong ou Santiago du Chili, ils se réfèrent à la méthode Macron pour justifier leur propre violence et leur propre répression. Parce que Macron a été le premier à organiser une répression policière extrêmement forte. Ensuite, deuxième chose, regardez la collusion qu'il y a pu y avoir entre le pouvoir politique de Macron, le gouvernement, et une grande partie du pouvoir médiatique pour dénigrer. On se mettait à dire les gilets jaunes, ce sont des antisémites, les gilets jaunes, ce sont des factieux d'extrême droite. Et vous retrouvez les mêmes stratégies. Regardez, le pouvoir algérien essaye de dénigrer le mouvement du peuple algérien en disant mais ce sont en arrêtant toutes celles et ceux qui portent, par exemple, le drapeau berbère et en faisant croire que ce sont tous des séparatistes. Dans chaque pays, ils essayent de dénigrer cela. Et c'est important de bien montrer que il y a une détermination du peuple, au contraire, à rester soudé. Et les prochains rendez-vous qui vont être pour la France, ça va être le 14 novembre, vous allez avoir une mobilisation très forte du mouvement hospitalier, mais aussi de la fonction publique, des finances publiques, parce que les attaques de Macron pour casser l'hôpital public, donc casser les communs, les services publics, mais aussi démanteler l'État républicain en brisant les administrations, est extrêmement problématique. Et ensuite, le 16 novembre et le 5 décembre.
Tout de même, pour tous les Français qui ont vu la police complètement dépassée face aux manifestants qui saccageaient l'Arc de Triomphe, qui mettaient le feu, venir leur dire que les gilets jaunes ont été écrasés par la violence, il n'y a pas besoin de réfuter, souvenez-vous.
Mais combien de blessés ?
Deuxièmement,
ça n'a
aucun sens.
Attendez, mais justement, sur la violence, je vais vous faire écouter quelque chose. Oui.
Si vous pensez que les armes non létales, si vous oubliez que ce sont des armes et vous croyez que ce sont des chasse-mouches, effectivement,
c'est l'ONU elle-même qui en parle.
Mais deuxièmement, je crois que là, tout de même, on va aller dans le délire. Il faut revenir à la réalité qui est que Macron a commis une erreur énorme au début de son mandat, de tout de suite, tout à fait cessante, à supprimer l'ISF sur les milliardaires, car sur les petites fortunes immobilières, il est toujours là, et qui a fait ça à contresens et s'est donné cette idée de société des riches et a fait de la France une société inégalitaire alors qu'à 99%, c'est une des sociétés les plus égalitaires d'Europe et qu'à 1% tout en haut. Là, oui, les inégalités flambent. Et donc, les Français ne savent plus dans quelle société ils vivent. Ils croient qu'ils vivent dans une société totalement inégalitaire, alors qu'elle n'est inégalitaire que tout au sommet.
Alors, la question de la crise sociale en France a suscité un commentaire, ou du moins une question sur notre répondeur au 01 56 40 37 37.
Cautionnez-vous les violences ? C'est la question qu'on entend le plus souvent dans les médias après une manifestation. Est-ce bien de casser ou de vandaliser, en fait ? Cette question me paraît un peu simplette, parce qu'évidemment personne ne va dire que casser c'est juste ou que c'est bon pour la société. Enfin, en réalité, en France, une bonne partie des avancées ont été gagnées par la violence. Alors moi, ce que je me demande aujourd'hui, c'est pourquoi l'attirail du casseur à Paris devient attirail de légitime défense à Hong Kong ? Ou pourquoi serait-ce plus légitime de se révolter au Chili qu'à Paris alors que les raisons sont les mêmes ?
Stéphane Rosès ?
La réponse est très simple, c'est que on peut pas mettre sur le même plan une société démocratique où il y a une liberté d'expression et une société autoritaire. Ensuite, la question de la légitimité de la violence. On a connu des périodes historiques dites révolutionnaires où il y avait une violence, mais au fond, je ne crois pas que ça soit la situation actuelle que nous connaissons. Sinon, je n'aurais pas utilisé pour les Gilets jaunes le terme de jacquerie. Une jacquerie n'est pas une révolution. Et évidemment, c'est le président qui était pointé. Mais je pense que ce qui fait qu'un peuple se met en mouvement et opère une révolution qui annonce un basculement qui peut, pas forcément légitimer la violence, mais expliquer la violence, c'est qu'il y a une conscience de l'après. Or, le néolibéralisme fait que les individus intériorisent les contradictions du capitalisme entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et donc, on n'est pas du tout dans les cas similaires du 19e ou du 20e, car la singularité actuelle, c'est que les peuples ont du mal à articuler les représentations premières de qu'est-ce qu'un peuple et la question sociale. Et c'est ça la nouveauté du néolibéralisme, c'est que l'efficace économique s'est désindexée de la maîtrise du peuple, du bon et du juste. De sorte que c'est très compliqué pour les peuples, d'où mon pessimisme sur la période, et je crois pour moi, malheureusement, la montée des nationalismes et à terme de la guerre, parce qu'au fond, il y a une difficulté à rabouter la question sociale et la question nationale. C'est pas les années 30, hein, mon analyse, c'est pas du tout de dire les années 30, mais il va y avoir un retour des nationalismes. Et donc la question est simple. Moi, je dis, il faut réparer les imaginaires nationaux, il faut redonner les cohérences à chaque modèle, il faut réinsérer la question sociale et la question nationale, sinon les nationalistes vont l'emporter. Malheureusement, en Europe, on ne tire pas les leçons de ce qui se passe, et ceux qui sont aux manettes sont absolument incapable de comprendre et donc de trouver des solutions à la montée des nationalismes partout en Europe. The lace lady travel with grace baby, I can't afford to cover the course, of course maybe settle that one in court, cause judging by the basics y'all already comfortable stuck up in the matrix. It's basic patch credentials but understand your favorite rapper peep my gold potential. I'm out of shame been passive trying to fit the circle cause I don't know how to act. Half of y'all was steady insecure, don't try to backflip just because the seasoning and flow's already active. Only 4 years, fantastic young veteran, new classic. Nah, knock the walls off, the whole key we gon' hinge the whole door off. I'm still AD, never forget it, it's life after death, roll the credits. Credit my maker, take a trip to see Jamaica. Molly spirit with the vapor, back to Zion, that's the nature. Africa, the new America, I hope I earn this permanent. At this, I put my pen in it, got my land and my permit with it. Bone on my bone, flesh off my flesh. Greatness in me, you can't make me feel less. Less hold, I'm not impressed. Best mode, got my effort like an empress. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. First name Eve, somebody ate the food they told the great to never eat. I'm dripping, DNA sees like I'm born gray. I be mad 2 G's, third war win it, first war I dated. No mentor, all my heroes assassinated. We been here, we incarnated. Tryna finish what they started and we made it. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find a form
in my melanin. Great state I'm in all states I'm in. I might find no form in my melanin.
Final Form par la zambienne Zampa the Great. Vous êtes bien sur France Inter.
Nous, le peuple, nous sommes en colère parce qu'on a piétiné notre vote et notre opinion. Et franchement, faut être vraiment sans gêne pour croire que nous allons accepter comme ça, sans rien dire.
Le nouveau rendez-vous.
Ah, mais ce gouvernement n'a pas apporté de réponse à notre agonie. Pas du tout, même pas un peu.
Nous ne pouvons pas continuer ainsi, à nous endetter pour acheter à manger, pour nous soigner, pour payer nos études. Les gens en ont marre.
Laurent Goumard.
Donc notre colère est inarrêtable maintenant.
Sur France Inter.
Chili, Bolivie, Hong Kong, mais on aurait pu aussi citer le Liban. Crise sociale sur fond de crise économique mondiale. Une hypothèse que nous allons évaluer avec nos invités. Je vous représente Daniel Simonet, porte-parole de la France Insoumise, Stéphane Rosès, politologue, François Boulot, avocat et porte-parole des Gilets jaunes à Rouen, et François de Closet, journaliste économique. Vous reprenez la main, Christophe Bourseillet.
Oui, il y a cette phrase de la politologue Mathilde Larère qui dit « Il y a des explosions insurrectionnelles dans différents points du monde et c'est cette simultanéité qui crée un climat insurrectionnel ». Mais François de Closet, on est dans un moment très particulier parce qu'on est dans un moment où il y a eu une embellie économique mondiale remarquable. Et puis là, maintenant, il y a un ralentissement économique mondial. Est-ce que la flambée sociale est liée, selon vous, au ralentissement économique mondial qui commence à se propager sur toute la planète?
Je ne le crois pas. Vous voyez, en France, le niveau de vie ne diminue pas. Et je pense qu'il y a une menace énorme sur l'économie mondiale due à l'accumulation des dettes d'un côté et la formation de bulles spéculatives délirantes. Tout ça va péter, on le sait, c'est très grave. Mais, je voudrais qu'on n'oublie pas, s'il vous plaît, que traditionnellement, on disait que l'écologie, c'est l'économie du long terme. Eh bien, aujourd'hui, l'économie, c'est le long terme, c'est l'écologie qui est en train de devenir la première chose, parce que la climatologie vient dans la météorologie, que l'on voit tous les jours, qu'on est en train de foncer à la catastrophe sur le plan écologique, et que je pense que ça va devenir primordial, parce que pour faire face à ce qui nous attend, quand on s'aperçoit que tout le monde hurle à l'idée de faire une taxe carbone dont tout le monde sait qu'il faudra la faire et qu'il faudra en faire 10 autres, je pense que là, oui, préparons-nous à la prochaine crise financière, économique, on n'évitera pas, mais s'il vous plaît, cessons de croire que l'écologie, c'est un rendez-vous pour dans 30 ou 50 ans.
Alors, j'ai fait pas mal de débats sur l'écologie, on en fera d'autres, j'imagine, avec vous, Christophe Bourseillet. Mais tout d'abord, un mot sur cette crise économique qui nous guette, parce qu'il y a des ralentissements mondiaux absolument partout. Les signes se multiplient, Stéphane Rosès.
Oui, François de Closet a dit les ressorts principaux qui font que la plupart des économistes pensent que nous allons aller à une crise financière, hormis le patron de Goldman Sachs, je crois. Et ce qu'il y a de très gênant, si ça devait se produire, c'est que, mais je parle sous le contrôle de nos amis, c'est qu'il me semble que, à la différence de la crise de 2008, où les États n'avaient pas profité de la crise pour réguler le secteur bancier et financier, il me semble que les États n'ont plus les moyens, je dirais, de se porter au secours du système, ce qui rend les choses quand même très 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 inquiétantes dans un contexte où, par ailleurs, on le sait, le repli des peuples qui se sentent en dépossession fait qu'on passe du multilatéralisme. Alors les Chinois, Macron est en Chine en ce moment, eux ont intérêt à ça. Macron est très français, donc il est universaliste. Mais la réalité, c'est qu'on a un phénomène en plus de recentrement des phénomènes productifs, de baisse du commerce international au regard de la production. Bref, les indicateurs ne sont pas bons, et surtout, ce qui est très inquiétant, c'est que si la crise advient, soit c'est une sorte de krach immaîtrisé. En 2008, pendant 5-6 heures, les grands banquiers internationaux ont craint que tout le système soit en rade. Ça ne s'est pas passé. Mais là, cette fois-ci, on ne voit pas comment les États pourraient sécuriser le système.
Un mot
François
Il faut savoir qu'aujourd'hui, les économistes ne comprennent plus rien au fonctionnement de l'économie, des taux d'intérêt négatifs, pourquoi le chômage baisse ou la production fait pas baisser comme elle devrait.
Et les chefs d'entreprise demandent la régulation.
On n'y comprend plus rien à l'économie. Tous les économistes sérieux vous le diront.
C'est la faute des politiques.
Bonjour pour piloter la crise. Hein.
C'est la faute des politiques. Vous demandez à un grand banquier ce qui se passe dans sa banque, il ne sait pas. Il ne sait pas. Donc, le système est devenu tellement complexe, il a tellement des méandres dans tous les sens, que les plus avisés, ceux qui étaient néolibéraux avant, demandent maintenant une reprise et ou vont dans la philanthropie parce qu'ils ont une grande inquiétude sur ce qui se passe. Allez voir le film Joker, c'est
mais
tout qui à fait révélateur. Voilà, c'est tout à fait révélateur de l'état, de l'état de la société et au fond d'une grande inquiétude. Mais selon moi, malheureusement, ça ne se fait pas au profit d'une visée émancipatrice, je vois plutôt les caractères, avec grande inquiétude, les caractères régressifs de la période.
Daniel Simonet.
Mais on voit bien que le système capitaliste et sa financiarisation et sa course folle vers le profit maximum pour une minorité de personnes, de toute façon, nous emmène contre un mur. D'abord pour les questions écologiques, climatiques, et là il y a une prise de conscience qu'en train de monter. Ben oui, dans les 10 ans qui viennent, si on ne remet pas tout en cause, ces logiques même extractivistes, productivistes, on va à la catastrophe. Donc la question elle est bien sur l'échec de toutes les promesses de ce système-là. C'est, on parlait tout à l'heure de l'échec des promesses du néolibéralisme pour les classes moyennes qui croyaient qu'elles allaient s'en sortir, puis elles se rendent bien compte qu'elles sont pas en train d'aller vers les premiers de cordée, mais au contraire d'être précarisées. Mais c'est surtout là l'enjeu de remettre en cause l'absence même de sens. À quoi
un
ça sert de vouloir pousser un caddie
rien,
et de chercher à l'accumulation de plus de biens, alors qu'il faudrait redonner du sens et avoir plus de liens. Et donc, c'est en même temps une opportunité énorme. C'est-à-dire que, et c'est intéressant de voir comment les questions écologiques, elles s'invitent
exactement
dans l'ensemble des luttes. Parce que, au Liban, avant d'arriver à la situation d'aujourd'hui, vous aviez eu les luttes autour des déchets, des problèmes justement de la logique de privatisation et de fermeture des décharges et l'incapacité du pouvoir à organiser ces biens communs que sont eh bien, la maîtrise de nos déchets et au contraire qu'essayer d'en faire de les marchandiser. Mais c'est valable aussi au Chili où la question des services publics est très prégnante, c'est valable aussi en Algérie. Donc on voit bien que la question d'une société des communs à travers la révolution citoyenne alternative à cette logique capitaliste est en train d'émerger.
François Boulot.
Oui, je crois qu'on est en train de parler de la crise financière qui pointe le bout de son nez. C'est-à-dire qu'on voit que le logiciel le économique ça, oui, actuel nous conduit vers une impasse. Et pour autant, dans l'idéologie de la pensée dominante, la théorie du ruissellement, elle fait encore sens dans beaucoup d'esprits. Alors Emmanuel Macron, il s'en défend, il dit c'est pas le ruissellement, moi c'est les premiers de cordée. C'est exactement la même chose. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que les premiers de cordée, ça fait bien longtemps qu'ils ont coupé la corde. Et ce qu'il ne voit pas, c'est que en réalité, cette théorie n'a aucun sens puisque quand vous donnez plus d'argent à des gens qui en ont déjà beaucoup trop, qui gagnent 1, 10 millions par mois.
Ils se les gardent.
Et en fait, il n'y a pas assez de biens matériels. Il n'y a pas assez de biens matériels dans la société pour pouvoir le consommer. Quand ils ont déjà acheté 5 villas, 3 bateaux et 10 voitures de luxe, si vous voulez, ils vont placer cet argent. Et ils ne vont pas prendre des risques, ces gens-là. Ils ne vont pas aller investir, je parle dans la globalité, vers les petites start-up, etc. Ils vont aller placer cet argent dans la sphère financière, ce qu'on appelle le marché secondaire, qui n'apporte aucun financement aux entreprises. Si bien que tant que vous ne changez pas de logiciel. Tant que vous avez des gouvernants qui, pour l'instant, parce qu'on l'assiste dans tous les mouvements mondiaux, qui apportent une réponse exclusivement sur le terrain sécuritaire et qui opèrent une répression en France, quand même, pour dire on dit les gilets jaunes ont été violents et c'est pour ça qu'il y a une réponse violente. Mais alors qu'a-t-on à dire sur les pompiers ? Qui peut dire que les pompiers sont allés manifester pour aller s'affronter avec les forces de l'ordre ? Et pourtant, on a vu ce qui leur est arrivé en retour. Donc effectivement, il y a un grand danger si nos dirigeants ne reprennent pas la main, effectivement. Et effectivement, la crise financière qui va arriver,
il faudra
saisir l'opportunité parce que ça va être une déflagration, parce qu'il n'y a pas les amortisseurs qu'on avait en 2008, les taux sont extrêmement bas, les banques centrales inondent en fait depuis 10 ans le marché interbancaire de liquidité de fausses monnaies. Il n'y a plus les amortisseurs, ça veut dire que effectivement, il faudra pas payer à la place des banques. Il faudra en fait mettre un terme à ce précepte qui a consisté à dire que les banques peuvent privatiser les profits mais socialiser les pertes. Eh bien ça, ce sera terminé.
Oui. François de Closet, ce sera le mot de la fin.
Il faudrait faire attention de ne pas se gargariser avec le mot de peuple. La foule révoltée pose de vraies questions.
Il vous fait peur, le
elle
peuple,
n'apporte
hein. Il vous fait
pas
peur,
de solution.
Ça fait quand
les,
il se constitue
en
acteur,
les printemps
si...
arabes nous l'ont bien montré. Ah, donc faisons attention de s'imaginer que parce parce que le peuple explose.
J'ai beaucoup moins peur dans le peuple, j'ai bien plus peur dans la caste oligarchique. Le peuple sera
quand
toujours
vous, les dirigeants
la
nous ont
mené
depuis 40 ans, moi j'ai pas entendu,
on n'entend plus rien.
Les pays arabes allaient demander aux Égyptiens ce que ça veut dire lorsque le peuple pose les vraies questions, mais que ce n'est pas lui qui peut apporter des réponses et que les autres apportent des réponses et on voit lesquelles. Non, il faut savoir qu'il faut reconstruire une république avec des institutions, un mécontentement qui se traduit à travers des revendications. Il faut retrouver tout ça, c'est en train de foutre le camp et c'est très grave.
Mais il faut...
Et c'est pas là. Revendication qui apporte la
solution.
C'est
pour ça que le processus constituant du peuple permet justement de redéfinir les règles du jeu et de restaurer la souveraineté et l'intérêt général.
Et la République, c'est le bien commun.
Eh bien, ça sera le mot de la fin, la République et le bien commun. Merci à vous quatre. Vous restez avec nous, Christophe aussi. Il y a de la musique tout de suite.
Maintenant, c'est un crack sonore maintenant.
Exactement, un mur du son.
Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Et c'est Marion Guilbeault, l'organisatrice de ce chaos.
Voilà, de cette revendication, de cette marche. Alors, c'est une belle mauvaise idée. C'est comme ça qu'ils aiment à se présenter. Ils, c'est Bandi Bandi. C'est un duo amoureux, musical. Il est formé par la voix ténébreuse de Maëva Nicolas et les guitares dans le rouge Fender d'Hugo Ellermann. Alors, pour la petite histoire, Bandi Bandi, c'est un cas d'école pour ceux qui douteraient de la puissance des réseaux sociaux aujourd'hui. Car figurez-vous...
Personne n'en doute.
Mais, il y en a encore. Figurez-vous que c'est Bonnie and Clyde du rock. Ils se sont rencontrés non pas à un concert de The Kills, mais sur Tinder. La romance s'est poursuivie ensuite grâce à Blablacar. C'est en effet lors d'un covoiturage entre Montpellier, leur ville d'origine, et le Printemps de Bourges, que le conducteur a craqué sur leur maquette et est devenu leur manager. Alors bientôt en concert sur Snapchat, qui sait, je ne sais pas moi. Plus concrètement, comme leurs aînés de Zoli Mignanas ou de La Femme, Bandi Bandi s'est emparé de la saturation du rock garage, de la fièvre du psychédélisme et de la nonchalance des yéyés pour écrire des titres noirs, nerveux, qu'on a envie de jouer très fort pour réveiller ceux qui ont renoncé ou ceux qui se sont endormis trop tôt. Alors, Bandi Bandi, c'est un amour du son frontal, voire un amour du mur du son, mais qu'en est-il de leur écriture, en français, en anglais? De quoi est-il question dans leur chanson, en particulier dans Pixel? C'est le titre que vous allez jouer ce soir, Bandi Bandi. Bonsoir Maëva.
Bonsoir. Alors, Pixel, tout simplement, a voulu parler de notre rencontre, justement, sur Tinder, de nos débuts un peu houleux. Parce que voilà, c'est tout comme toute relation, c'est jamais tout rose au début. Et je pense qu'on a commencé par le mauvais pour finir en apothéose, donc c'est cool. Et tout simplement, l'EP parle de ça en fait. Ça a un peu exorcisé toute la chose. On s'est fait du mal et maintenant on se fait énormément de bien et c'est ok.
Et bon, on va écouter ça tout de suite.
C'est bien de commencer par la fin.
Ouais, c'est bien aussi. Bandi Bandi en live dans le NRV, c'est à vous.
merci.
Bandit Bandit Pixel, 2 minutes 36 pile. C'est extrait de leur première EP éponyme qui vient de sortir. C'était Maeva au chant, à la Jupe Panthère, Hugo à la Thunder Mustang, Anthony à la batterie, Harry à la basse. Ils vont être en concert au Trianon en première partie de qui, Laurent? De La Strain, nos copains.
Oui, qu'on a reçu la semaine dernière.
Voilà, dans Côté Club. Ce sera le 6 novembre. À Villefranche-sur-Saône le 19 novembre, au Bar en Trance, à Rennes le 6 décembre, à Strasbourg le 20 et à Brest le 23 janvier 2020. La prise de son ce soir était assurée par nos brigands à nous, Fabrice Desmaz et Julien Dumont. Merci beaucoup d'être passé par le Nouveau Rendez-vous.
Et merci à nos invités. Merci Daniel Simonet. Merci Stéphane Rosès. Merci François Boulot. Je rappelle que vous signez La Ligne Jaune aux éditions Indigènes. Et enfin, merci François de Closet. Une BD pour vous, Les Guerres d'Albert Einstein, chez Robinson. Merci à vous quatre. C'était le NRV. Première partie. On va se retrouver tous dans 15 minutes pour le NRV La Suite, pour plus de France Inter. Mais demain, dans le NRV.
Votre parti a promis aux électeurs que vous allez effacer la dette.
Il y a d'un côté les promesses électorales et de l'autre la réalité.
Crise grecque, oui, on en est où. On en parlera notamment demain avec le réalisateur Costa Gavras à l'occasion de la sortie de son film Adults in a Room. Vous serez là, Christophe Barcelier.
Bien sûr.
On vous attend sur le sujet. Vous pouvez bien sûr laisser des messages, des commentaires, des analyses sur notre répondeur 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. En live, Marion, après Bandit Bandit.
Et ben on a rendez-vous avec Voyou, un autre mauvais sujet de la pop française.
Manifestement, vous avez de la suite dans les idées. Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation, programmation et préparation, Virginie Rouzic et Clémence Diligent.
Rendez-vous.